secours que je vais vous faire a été construit dans le contexte de la catéchèse. Il y a de nombreuses années, nous avions mis au point ici au Studium un département qui se mettait au service de personnes qui voulaient transmettre la catéchèse, et nous avions réfléchi justement à la richesse du parcours catéchétique offert par Notre-Dame de Vie. Et l'une des grandes intuitions qui a guidé mon travail a été de découvrir dans le parcours de Noël Leduc que elle commençait la catéchèse en abordant le mystère de Dieu. Et en fait, elle respectait la pédagogie divine. Parce que Dieu a commencé par révéler son unicité, et ensuite seulement il a révélé sa Trinité. Et Noël, que j'ai eu le bonheur d'accompagner pendant des années dans ses conférences publiques, expliquait que quand elle arrive au moment où elle déploie le mystère du Christ, les enfants sont déjà familiers du mystère du sens de Dieu. Ils ont le sens de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu a commencé par révéler son unicité avant de révéler la Trinité. Et que lorsque, au moment de l'Avent, eh bien, les enfants découvrent le mystère de l'Annonciation, le Fils de Dieu, eh bien, n'est pas un autre Dieu que le Dieu qu'on a commencé à découvrir depuis septembre, octobre. Eh bien, cette pédagogie, c'est ce qui va fournir l'ordre de notre travail. Et ce travail, en fait, cette pédagogie, ce n'est pas simplement une idée de Noël Leduc, mais c'est l'ordre même selon lequel procède le catéchisme. Parce que Dieu, dans sa pédagogie, a développé, a déployé son unicité, s'est fait connaître comme l'unique Dieu, eh bien, il faut commencer par Dieu. Alors, je vous ai déjà dit, les symboles de la foi, ben, sont le fondement du travail théologique. Et maintenant, nous allons aborder la simplicité divine et l'unicité divine. Je vous ai mis quelques références du catéchisme et nous allons les lire, bien sûr, un peu plus tard. Mais je vais vous donner déjà quelques éclairages sur la simplicité divine, ce qu'on appelle la simplicité divine. Le point de départ de ce que nous allons faire, c'est que Dieu existe. Dieu existe, d'une part, et que Dieu n'est pas le monde. Il n'est pas autre chose que lui. Dieu existe et il n'est pas le monde. Nous allons essayer de dire non pas tellement ce que Dieu est, mais plutôt de dire ce qu'il n'est pas. Parce que ce que nous savons, c'est qu'il n'est pas le monde. Voilà l'essentiel. Et si nous devons préciser un peu, nous dirons, Dieu n'est pas ce qui caractérise le plus profondément le monde, l'univers. Or, ce qui apparaît avec le plus d'évidence en ce qui concerne le monde et l'univers, c'est que ce monde, cet univers, est composé, c'est-à-dire non identique. Il est fait de réalités qui sont diverses, qui sont elles-mêmes composées. Vous allez comprendre. La première réaction qui nous vient en face du monde que nous côtoyons, c'est que ce monde ne répond pas à notre principe d'identité. Ce monde est divisé, composé, non identique. Quand nous disons que Dieu n'est pas le monde, il n'est donc pas composé, il n'est pas diversifié, il n'a pas de diversité en lui. Et si nous voulons préciser un peu davantage, nous dirons, l'essentiel de cette composition du monde, de cette diversité, vient de ce que, du point de vue de l'existence, les étants que nous côtoyons, les êtres que nous côtoyons, que nous voyons, ne coïncident pas avec ce qu'ils sont actuellement. Il y a en eux composition de ce qu'ils peuvent être, la puissance, et de ce qu'ils sont actuellement, l'acte. Dans tout ce qui existe, en effet, tout ce que nous voyons, nous avons à distinguer ce que cette chose est actuellement, et puis ce que cette chose peut être et qu'elle n'est pas actuellement. Quand il s'agit de voir ce que je suis actuellement, en ce moment, je suis en train de parler, je suis en bonne santé maintenant, mais je puis être malade, je peux être réduit en cendres. Il suffit d'un petit accident d'automobile. Donc, il y a à distinguer du point de vue de l'existence, ce qui est actuellement, ce qui existe, l'acte, et ce que ça peut être. Ce que je suis actuellement, ce qu'un être est actuellement, c'est ce qui existe. Nous traduisons ça en disant, c'est ce qui est en acte d'être. La différence à faire entre être en acte d'être et puis être en puissance d'être. Eh bien, c'est la composition fondamentale que nous retrouvons dans tout ce qui existe. Quand nous disons Dieu n'est pas le monde, nous concluons que Dieu n'est pas composé par ce qu'il est actuellement et ce qu'il est en puissance. Cette composition qui se vérifie dans tout ce qui existe dans l'univers, mais nous sommes obligés de la nier en Dieu. Et nous allons justement trouver des indications dans la révélation concernant ce mystère d'un Dieu qui n'est pas composé, pas diversifié. Mais bien entendu, il s'agit là d'une question qui est très difficile. Pourquoi? Parce que si l'on consulte d'abord les traditions religieuses concernant ce qu'on nous dit de Dieu, on se rend compte que les dieux de toutes les religions, sans exception, apparaissent comme des êtres composés, des êtres qui sont divers. En particulier, le signe de cette composition, c'est que pour les religions, quelles qu'elles soient, les dieux sont des êtres corporels. Alors, ce qu'il y a de plus frappant et la plus grosse difficulté qu'on puisse se faire au point de vue théologique, c'est que quand on lit la Bible d'une manière un peu superficielle, on se rend compte que la Bible elle-même nous montre un Dieu, le Seigneur, qui est corporel, qui est pourvu de mains, de bras, d'oreilles. Il entend, c'est un Dieu qui se promène dans le jardin. Genèse au chapitre 3. Et nous le voyons à lire les premiers chapitres de la Genèse. C'est un Dieu qui ferme la porte de l'arche. En Genèse 7, on ne peut pas fermer la porte de l'arche autrement qu'avec des mains. Et il suffirait de lire la Bible, les psaumes, pour montrer ce Dieu qui est composé. Non seulement composé parce qu'il a un corps, mais parce que dans sa vie intérieure, dans la vie de son esprit, si on peut dire, il est loin d'être simple, il est très compliqué ce Dieu. On voit qu'il est agité par de multiples passions. C'est un Dieu qui se met en colère, et puis qui se repent de s'être mis en colère, ou qui montre sa miséricorde, ou bien, au contraire, qui punit sa fiancée, le peuple d'Israël, et qui s'attendrit à la vue du pécheur qui demande pardon. Ce sont des passions. Alors, cet être, il change. Il est sujet au changement. Il a un corps. Donc, vous voyez, ce que nous disons au sujet de Dieu, qui n'est pas composé, ce n'est pas si évident quand on consulte les textes de la Bible. Comment interpréter tous ces textes? Qui nous parle d'un Dieu qui a un corps, etc. Ou une âme sensible, des affections. Donc la difficulté qu'on éprouve, c'est de se demander dans ces conditions, oui ou non, est-ce que Dieu, nous devons l'affirmer comme un être complexe, compliqué, ou au contraire un être simple? On se rend compte en lisant un peu plus profondément le texte biblique qu'en réalité, ces données qui donnent l'apparence d'un Dieu complexe, compliqué, composé, diversifié, avec des membres, ceci ne représente que des images anthropomorphiques, comme nous disons, et qui ont pour but d'essayer de mettre au point les rapports de l'homme avec Dieu. Il faut que l'être humain en face de Dieu vive vraiment comme si vraiment Dieu était jaloux, comme si Dieu souffrait de son péché, comme si. Voilà à quoi servent les anthropomorphismes. Ça nous montre à nous comment nous devons nous comporter vis-à-vis de Dieu. Dieu est jaloux de l'amour de sa fiancée. Je ne veux pas que tu ailles avec un autre, je ne veux pas que tu sois adultère, je ne veux pas que. Tu es jaloux, oui, je suis jaloux, mais c'est pour te montrer que ton amour à toi, ton cœur à toi, doit être totalement à moi. C'est pas que Dieu a sa fiancée quelque part, il n'a pas un cœur avec des affections. Mais pour nous montrer à moi, que je dois me comporter comme s'il était jaloux. Comme s'il se mettait en colère, etc. Et en réalité, quand on lit certains textes de la Bible, on voit que lorsque Dieu se présente à l'être humain, il se présente en des apparences qui n'ont plus rien de corporel, de compliqué, ni de visible. Et c'est ici qu'il faut revenir à ces textes qui sont si importants pour dégager déjà un peu le mystère de Dieu. La première fois que Dieu se présente à l'être humain d'une manière claire, c'est à Moïse qui paissait les moutons de Jéthro, son beau-père, dans le désert. Il parvient à la montagne de Dieu, l'Horeb. Nous sommes dans l'Exode, chapitre 3, verset 14. L'Horeb, c'est-à-dire le Sinaï. Et alors, l'ange de Yahvé s'est manifesté à lui. Ce n'est pas Yahvé qui se manifeste, c'est l'ange du Seigneur, une représentation du Seigneur. Il se manifeste à lui sous la forme d'une flamme de feu jaillissant d'un buisson. Une flamme de feu, de toute évidence, c'est une image. Dieu n'est pas une flamme, mais le texte signifie que Dieu ne se montre pas comme un être humain ayant des membres, des jambes, une voix, etc. Non, il se montre par l'intermédiaire d'une image. L'image d'une flamme, ou alors l'image de l'ange du Seigneur. On ne sait pas trop ce que c'est. Enfin, c'est une image. Et vous avez un autre texte très important, de l'Exode toujours, chapitre 33 cette fois, 18. C'est au moment où le Seigneur se présente à Moïse sur la montagne. Dieu se rend à la prière de Moïse. Moïse voudrait voir ce que c'est ce Dieu qui, jusqu'à présent, ne lui est pas apparu d'une manière visible, d'une manière sensible. Il voudrait voir, ce qui prouve bien que Dieu n'est pas apparu à Moïse comme un être ayant un corps avec des bras et des jambes. Et alors Moïse lui dit, « Fais-moi de grâce voir ta gloire. » Il voudrait voir ce que c'est que ce Dieu. Et Dieu lui dit, « Je ferai passer devant toi toute ma splendeur. Je prononcerai devant toi le nom de Yahvé. J'ai compassion de qui je veux. On ne peut me voir et demeurer en vie. » Dieu représente quelqu'un qu'on ne peut pas voir, qui est invisible. Et ici, nous sommes dans un fondement théologique, anthropologique, extrêmement important. La crise essentielle concerne ce mystère actuellement. Dieu représente quelqu'un qu'on ne peut pas voir, qui est invisible. Bon, c'est un drame, ça, pour beaucoup de monde. Pour moi, d'abord. Tous ces gens de la croix sont ici. S'il avait un corps, s'il avait des bras et des jambes, on pourrait le voir. Non, tu ne peux pas voir ma face. Et le Seigneur dit encore, « Voici une place près de moi. » Tu te tiendras sur le rocher, et quand passera ma gloire, je te mettrai dans la fente du rocher, je t'abriterai de ma main durant mon passage. Puis, j'écarterai ma main, et tu me verras de dos, mais ma face, on ne peut pas la voir. Ces textes-là expliquent bien que Dieu n'est pas quelqu'un, quelque chose de visible, comme les dieux du paganisme, qui étaient des êtres à forme humaine. À forme humaine tout à fait différenciée, tout à fait compliquée, vous avez vu. On voit sur les pendentifs. Pensez aux dieux des temples hindous, par exemple, qui ont de multiples bras, de multiples jambes. Ici, pas du tout. On ne peut pas le voir.
Il y a quand même une main.
Pardon ?
Il y a quand même la main.
Mais c'est ça. Oui, c'est ça, les fameuses représentations anthropomorphiques. Et alors finalement, dans un texte de Deutéronome, au chapitre 4, verset 15, il est bon de méditer ces textes-là. C'est au moment où Dieu demande justement qu'on ne fasse pas d'image de lui. Voyez le texte, Deutéronome 4, verset 15 et suivant. Prenez bien garde à vous-même, puisque vous n'avez vu aucune forme le jour où le Seigneur, à l'Horeb, vous a parlé du milieu du feu. N'allez pas prévariquer et vous faire une image sculptée représentant quoi que ce soit, figure d'homme ou de femme, figure de quelqu'une des bêtes de la terre, figure de quelqu'un des oiseaux qui volent dans le ciel, figure de quelqu'un des reptiles qui rampent sur le sol, figure de quelqu'un des poissons qui vivent dans les eaux au-dessous de la terre. Et quand tu lèveras les yeux vers le ciel, quand tu verras le soleil, la lune, les étoiles et toute l'armée des cieux, ne va pas te laisser aller à te prosterner devant eux et à les servir. C'est fantastique. C'est cette interdiction rigoureusement absolue qui caractérise la religion de Yahvé. Le temple de Jérusalem est le seul temple dans toute l'histoire des religions dans lequel ne se trouve rien que cette présence invisible de Dieu. Tout cela est à méditer, hein, pour souligner que quand on lit en profondeur la Bible, on se rend bien compte que Dieu n'est pas quelque chose de corporel, comme les dieux du paganisme qui figuraient leur Dieu soit sous des figures d'animaux, soit sous des figures d'hommes. Pensez au veau d'or que Moïse a dû briser. Et surtout, ce qui est exprimé le plus fortement en ce sens dans la Bible, c'est cette idée que Dieu est le Saint, S-A-I-N-T, le Saint, Agios. Qu'est-ce que ça signifie? On dit ça au milieu de notre messe tous les jours. Saint, Saint, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Dans Isaïe, par exemple, chapitre 6, verset 3, chapitre 4, verset 25, et dans plusieurs autres textes, il est le Saint. Vous voyez dans les Nombres, chapitre 27, 14, chez Ézéchiel, au chapitre 20, verset 41, 36, verset 23, etc. Par ce mot-là, Saint, les prophètes veulent traduire la véritable transcendance, la sainteté de Dieu. On a traduit le mot Kodesh par Agios. Ce mot-là, agios, le trisagion de la messe, ce qui est pur, ce qui est intact, c'est ça que ça signifie. Ce mot-là, agios, indique ce qui est inviolable, ce qui n'est pas mélangé avec la terre. C'est l'idée du minerai dont on retire l'or pur. L'or pur, Agios. N'est pas mélangé. Dieu est saint, inviolable. On ne peut pas le toucher. Il est sacré, c'est-à-dire séparé du monde. Il n'entre pas en composition avec le monde. Il n'y a rien en lui que lui-même. Dieu est simple comme le cristal qui est sans tache, comme l'or qu'on a séparé vraiment des résidus. Il est ce qu'il est, tout simplement. Cette affirmation d'un Dieu transcendant signifie que Dieu n'est pas comme ce qui existe au monde. Il est uniquement lui-même. C'est-à-dire, il est simple. Il n'est pas composé d'autre chose. Nous allons voir, se préciser un petit peu cette affirmation, petit à petit. Et les pères de l'Église ont fait un effort de réflexion considérable sur cette proposition. Dieu est simple. Et après tout l'effort des pères, nous avons l'affirmation solennelle de l'Église au premier concile du Vatican. Dans ce texte que vous avez et que vous pourrez relire dans le catéchisme numéro 202. Numéro 202. Jésus lui-même confirme que Dieu est l'unique Seigneur et qu'il faut l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, de toutes ses forces. Il laisse en même temps entendre qu'il est lui-même le Seigneur. Confesser que Jésus est Seigneur est le propre de la foi chrétienne. Mais cela n'est pas contraire à la foi en Dieu l'unique. Croire à l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie n'introduit aucune division dans le Dieu unique. Et là, vous avez le texte du Vatican I, Denzinger 3001, mais aussi Latran 4. Donc le texte qu'on va vous citer ici, c'est Latran 4, Denzinger 800. Mais moi, je vous cite le texte d'après le Concile Vatican I, qui l'a repris intégralement. Nous croyons fermement et nous affirmons simplement qu'il y a un seul vrai Dieu, immense et immuable, incompréhensible, tout-puissant et ineffable, Père et Fils et Saint-Esprit, trois personnes mais une essence, une substance, une nature absolument simple. Qu'est-ce que ça signifie, simple? On va voir, hein. On va essayer d'entrer dans ce mystère. La foi donc nous indique Dieu qui n'est pas le monde, qui n'est pas composé comme le monde qui est essentiellement composé, diversifié. Ce qui revient à dire que Dieu est simple, n'est pas composé. On va aller un petit peu plus loin parce qu'on va poser la question, mais pourquoi Dieu n'est pas un corps? Saint Thomas réfléchit à ce problème. Qu'est-ce qu'un corps? Un corps matériel. Pourquoi Dieu ne peut pas être un corps? C'est possible. Un corps matériel. Qu'est-ce qui caractérise le corps matériel? C'est que ce corps comporte nécessairement le pouvoir de devenir autre que ce qu'il est. La puissance d'être autre que ce qu'il est. Pour saint Thomas, la matière, qu'est-ce que c'est que la matière? C'est le pouvoir d'être autre. Un corps ne coïncide jamais avec ce qu'il est actuellement. Il y a toujours en lui ce pouvoir d'être transformé, d'être autre. Et cela se vérifie en particulier du fait de l'étendue, qui est une des caractéristiques des corps. L'étendue, c'est le fait de pouvoir être divisé. La signification de l'étendue, même chez Descartes, consiste à pouvoir être divisé. Un corps comporte ce pouvoir d'être divisé. Voilà. Mais le pouvoir d'être divisé, c'est évidemment le pouvoir d'être autre, de devenir autre. Si je découpe un arbre en morceaux, n'est plus un arbre. Nous allons faire des morceaux d'arbre. On comprend bien dans ces conditions qu'il est impossible d'admettre que Dieu ait ce pouvoir d'être autre. Il ne serait pas Dieu. On ne peut pas transformer Dieu comme on transforme tout corps, quel qu'il soit. Il n'y a pas de matière non plus en Dieu. On ne peut pas imaginer un Dieu qui soit matériel, puisque la matière se définit précisément par cette puissance d'être autre. Encore une fois, un corps est matériel dans la mesure où il peut devenir autre. Donc, pas de matière en Dieu. Et allons un peu plus loin. Nous allons montrer que en Dieu, on ne peut pas imaginer qu'il y ait une composition comme chez nous, comme dans tous les temps, quels qu'ils soient, une composition entre ce que il est et puis le fait qu'il est actuellement, l'acte même d'exister. Chez nous, nous distinguons ce que nous sommes, ce que je suis, et c'est cela qui peut se transformer. Ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas ce que je serai demain, ce n'est pas ce que je peux devenir. Il y a donc en nous ce que nous appelons notre essence, ce que je suis, et puis alors le fait d'exister actuellement. Ce que est quelque chose, c'est son essence, ce que, ou sa nature. Et puis, le fait d'exister. On distingue en nous l'essence et l'existence, ce que je suis, et puis le fait d'exister. Ce que je suis, c'est je suis un homme, j'ai ma nature humaine. Qu'est-ce que c'est au fond ce mystère d'être un homme, d'exister? C'est que mon essence, ce que je suis, contracte l'existence. Je ne peux pas dire je suis. Je suis nécessairement quelque chose. L'essence, contracte l'existence, limite l'existence. L'essence contracte l'existence et je ne suis qu'un homme. Je ne peux pas dire je suis purement et simplement. L'existence, c'est l'existence d'une nature humaine concrète et qui limite considérablement l'existence. Je ne suis, je n'ai en fait d'existence que ce que fournit l'essence humaine, la relation entre essence et existence. Vous voyez, n'y a pas identité, il y a composition. Cette composition qu'il y a en moi et dans tout ce qui existe, je ne coïncide pas avec la nature humaine, moi. Je ne coïncide pas. Je ne suis pas identique. Donc, il y a composition. Mais cette composition qu'il y a dans tout ce qui existe, ce que c'est, et le fait d'exister, cette composition qui existe dans tout ce qui existe, nous devons la nier au sujet de Dieu. Il n'y a pas de composition d'essence et d'existence en Dieu. Et nous avons déjà aperçu, puisque je vous ai dit « je suis », quand je dis « je suis », si je disais « je suis rien, je suis rien d'autre, tu n'es rien, rien de particulier ». Tu es l'existence pure et simple. Ben oui, mais c'est la définition de Dieu, ça. Une existence qui n'est contractée par rien. Que rien ne vient limiter. Que rien ne vient déterminer. L'existence pure et simple. Esse purum, comme dira saint Thomas. Je suis, purement et simplement. Exode 3,14. Quand saint Thomas parle d'acte pur, vous allez trouver, quand vous lisez saint Thomas, vous trouvez au sujet de Dieu partout, acte pur. C'est ça que ça veut dire. Une existence, Dieu existe, mais il existe tellement qu'il n'est pas quelque chose. Parce que quelque chose qui existe, serait justement quelque chose dont la nature, l'essence, contracte l'existence. Il n'aurait qu'une ration d'existence, une petite ration d'existence. La ration que fournit, que permet l'essence humaine. Je ne suis qu'un homme, je ne suis qu'un homme, je ne suis qu'un arbre, je ne suis qu'un chimpanzé, je ne suis qu'une fraise. Je ne peux pas être... Je ne peux pas exister purement et simplement. Mais l'essence contracte l'existence. Cette composition n'existe pas en Dieu. Mais Dieu n'est pas quelque chose qui existe. Je blague en disant ça. C'est plus que quelque chose qui existe. Mais parce que, répondez à l'objection... Pourquoi est-ce que nous disons que Dieu n'est pas quelque chose qui existe? Parce que si nous disons que Dieu est quelque chose qui existe, nous le considérons comme quelque chose qui s'ajoute aux étangs, à tout ce qui existe, à tout ce que je vois, à tout ce que je peux observer. Mais si Dieu est au nombre des étangs, si je le considère comme quelque chose qui s'ajoute, dont l'existence s'ajoute à tout ce qui existe, je le cherche avec mon microscope. Comme disait l'autre, Gagarine, je ne sais plus qui disait, mais on est allé à l'atmosphère et on n'a pas vu Dieu. Ben non, on n'a pas vu Dieu parce que tu le cherches comme quelque chose qui s'ajoute aux étangs. Mais il existe trop pour que tu le vois. Ça, je pense que saint Thomas serait d'accord avec cette formule-là. Il existe trop pour que tu le vois. C'est l'être le plus connaissable, Dieu. Il existe infiniment. Et c'est l'existence qui fonde le fait d'être connaissable. Il est infiniment connaissable, Dieu. Et pourtant, nous ne pouvons pas le voir. Et en plus, nous n'avons aucune idée de lui. Mais pourtant, il est infiniment connaissable. Parce qu'il existe infiniment. Donc cette composition de l'essence et de l'existence, nous la lions au sujet de Dieu. Alors, évidemment, vous me direz, mais À quoi ça sert un catéchèse? Non, ça ne sert pas en catéchèse directement aux enfants. Oui. Mais vous, si vous êtes frotté, parce que je dis bien c'est une initiation, quand on est frotté de ces mystères, on n'aborde plus le mystère de Dieu de la même façon. Et on porte une responsabilité merveilleuse, surtout dans la prière, puisqu'il s'agit justement de fixer Dieu qui est invisible. Précisément. Et vous voyez que ici, nous voyons déjà une première application de l'effort que nous faisons depuis une heure. La première application que nous faisons à discerner la simplicité divine, c'est-à-dire à écarter de Dieu, du mystère de Dieu, toute composition de puissance et d'acte, d'essence et d'existence, de substance et d'accident, en fait, toute espèce de composition, cette simplicité divine. Tout cet effort que nous faisons pour montrer que Dieu n'est pas visible, qu'il n'est pas corporel, qu'il n'y a pas de devenir en lui, de changement, etc., s'exprime dans notre vie, non pas d'abord par des discours catéchétiques comme dans notre vie de catéchèse, mais par le regard de prière, justement. Un éducateur qui fixe Dieu dans le silence de la prière, il est en relation avec un être qui existe, mais qui est invisible. Pourquoi pas ? Et c'est l'être le plus connaissable, et non seulement l'être le plus connaissable, mais le plus délectable aussi, le plus aimable, et le plus beau. Et il n'est pas beau comme nos choses belles, il est infiniment plus beau, parce que sa beauté ne passera pas, parce qu'elle est la source de toute beauté, etc., etc. Et vous voyez, ici déjà nous voyons une application directe, immédiate de ce traité de Dieu par lequel nous commençons. Donc vous voyez, pas de composition à Dieu, pas de composition. Vous reviendrez sur cette idée de la simplicité divine, c'est un dogme de foi. Nous devons croire que Dieu est infiniment simple, c'est ce que nous avons lu dans le catéchisme. Hein? Le catéchisme qui reprend là, Vatican I, qui reprend Concile de Latran, hein, qui reprend ces vérités essentielles. Et pourquoi est-ce qu'elles sont très, très importantes, ces vérités? Parce que il y a un autre genre de composition qui consiste, pour le monde que nous observons, non seulement à être composé en lui-même, un étang est composé de plusieurs morceaux, comme un corps, il y a une autre façon d'être composé, faire composition avec d'autres. Un étang, quel qu'il soit dans notre univers, ne peut pas exister, ne peut pas être pensé sans d'autres qui l'accompagnent. Nous n'avons jamais un seul être se promenant comme ça à titre de solitaire. Il y a donc un être qui est toujours en composition avec un autre. D'où la question qui pourrait se poser au terme de ce que nous venons de dire. Si Dieu n'est pas composé en lui-même, ne pourrait-il pas entrer en composition avec quelque chose d'autre que lui, et en particulier avec l'univers? Si Dieu est simple en lui-même, n'est-il pas en rapport avec l'univers pour s'unir avec cet univers, de même qu'un étang s'unit aux autres étangs. Et qu'il n'y a pas moyen de le considérer absolument isolé. Pas moyen de considérer un être absolument isolé. C'est fantastique de penser ça, que nos astronomes qui explorent les astres nous le disent ça constamment, de plus en plus. On comprend de plus en plus clairement que les univers les plus lointains, les constellations les plus lointaines, c'est effarant de penser ça. On est dépendant de cet ordre qui existe autour de nous, mais qui est fantastiquement loin, et apparemment. Eh bien non. Si on touchait cet équilibre là-bas, lointain, eh bien on toucherait aussi l'équilibre de la planète Terre. Il est impossible de penser un être existant seul, absolument seul. Et donc la philosophie et la science nous confirme de plus en plus ce mystère, les relations qu'il y a nécessaires entre nous. Eh bien, pourquoi est-ce que Dieu ne serait pas nécessairement, lui, en relation avec le monde, avec l'univers? Et c'est ici que nous sommes sur la pente qui conduit au panthéisme. C'est qu'en effet, on pourrait se demander si Dieu ne pourrait pas être affirmé par notre esprit, non pas comme un corps, mais comme serait par exemple l'âme du monde, l'âme de ce grand corps qu'est l'univers. Dieu ne serait qu'un avec cet univers, comme l'âme humaine avec le corps humain. Un. Qu'est-ce que vous en pensez? Avez-vous déjà entendu cette hypothèse? Spinoza. Et la tentation devient très violente lorsqu'on pense au mystère de l'incarnation. Nous sommes tellement habitués. Mais nous disons bien que Jésus, cet homme, il est Dieu. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que non seulement ce corps d'homme, mais ce grand corps qu'est l'univers, que cet univers est Dieu ? C'est la formule la plus explicite du panthéisme. Et c'est ce que vous trouvez en particulier chez un philosophe comme Spinoza, qui vous dit qu'il n'y a à envisager en philosophie qu'une substance. Cette substance, c'est l'univers, mais dont Dieu représente presque tout. Et certains théologiens sont fortement tentés par cette vue, non pas par le panthéisme franc de Spinoza, mais par cette vue qui consisterait à dire pourquoi ne pourrait-on pas dire de l'univers qu'il est le grand corps après tout du Christ. Pourquoi? Et voilà, c'est ça, oui. Oui, mais c'est tentant. Et vous trouvez certaines pages de Teilhard de Chardin qui font allusion à cette vision des choses. Non pas que Teilhard soit panthéiste, mais il y a là une tentation de panthéisme en fonction de l'incarnation. Alors là, nous avons l'affirmation de l'Église qui est catégorique sur ce point et qui repousse cette façon de voir de la façon la plus ferme. Et toujours au Concile Vatican I. L'Église repousse toute affirmation de panthéisme simplement en soulignant l'affirmation qui domine toute la Bible, à savoir que Dieu est le créateur de toutes choses. S'il est entendu que Dieu a fait le monde et tout ce qui existe, il est entendu aussi que Dieu se distingue nettement, se différencie profondément, essentiellement, de ce monde qu'il a fait. Parce qu'il n'est pas possible qu'il soit cause de l'existence et qu'il ait une existence causée. Dieu ne peut pas être du côté des êtres qui ont une existence qui a commencé, qui est causée. Il serait lui-même causé, il ne serait plus la cause. Alors vous avez le numéro 213. 213. Je suis celui qui suis. Contient la vérité que Dieu seul est. Oui, vous voyez, Dieu seul est purement et simplement. Dieu seul est cet être dont on peut dire il n'est pas quelque chose. C'est ça la simplicité divine. Simplicité. C'est en ce sens déjà que la traduction des Septante et à la suite la traduction de l'Église ont compris ce nom divin. Dieu est la plénitude de l'être. Mais vous voyez, nous n'avons pas d'outils pour imaginer cette masse fantastique d'existence. Même le mot masse nous trompe. C'est ce que les Hébreux traduisent par la gloire. Quand vous avez la gloire de Dieu, là, dans un texte, c'est que l'auteur a pressenti, là, cette masse. Cette masse qui nous entoure, Dieu. Il est, purement et simplement. Nous avons une toute petite ration d'existence. Vous allez voir, nous allons entrer petit à petit dans le mystère de la création et nous allons voir comment ces distinctions-là vont jouer dans le traité de la création, dans le traité de l'union hypostatique, dans le traité de l'Eucharistie. Si on n'a pas ces distinctions que nous sommes en train de poser là maintenant, eh bien, tout fout le camp. Tous les grands dogmes de la foi chrétienne se tiennent. Fidèle, cette ratio se tient là, ici, là, dans cette gymnastique que nous essayons de faire en ce moment. Donc, plénitude d'être. Il n'y a pas moins d'être. C'est moi qui a peu d'être. C'est moi qui en a très très peu. Dieu, lui, est plénitude, la source, la cause de l'être. La source de l'existence, de toute existence. Dieu est la plénitude de l'être et de toute perfection, sans origine et sans fin. Voilà. Il n'est pas causé. Dieu est la cause. Alors que toutes les créatures ont reçu de lui tout leur être et leur avoir, lui seul est son être même. Et il est de lui-même tout ce qu'il est. C'est du saint Thomas, évidemment, ça. Il n'y a pas la référence. Mais c'est dans le traité de Dieu de saint Thomas. Mais quel courage de la part du rédacteur dominicain, Pierre Schönborn, hein, entre autres, d'avoir reporté ici ces paroles-là, qui sont magnifiques. Mais à la lumière du travail que nous venons de faire, nous comprenons cette phrase. Nous commençons, disons, à la comprendre. Alors que toutes les créatures ont reçu de lui tout leur être, nous allons mieux le voir dans le traité de la création que nous allons commencer tout à l'heure, lui seul est son être même, identité. Ce que Dieu est, parce qu'il a une essence, Dieu, mais il n'y a pas composition entre ce qu'il est et le fait d'exister pour lui. Il a identité. Ce que Dieu est, c'est purement et simplement être, exister. Ça va? Il n'y a pas composition. Il est son être même, l'identité. Simplicité. Quant au mystère de l'incarnation, l'Église souligne que le cas de l'homme Jésus est précisément le seul cas dont on puisse dire cet homme est Dieu. Il est impossible de formuler cette affirmation en dehors du Christ. Impossible de dire cet univers est Dieu, sous prétexte que l'univers, c'est le Christ un peu dilaté. Alors je vous relis un texte du Denzinger, numéro 3001, qui n'est pas cité dans le catéchisme, mais qui est donc le Concile Vatican I. La Sainte Église catholique apostolique romaine croit et professe qu'il y a un seul Dieu vrai et vivant, Créateur et Seigneur du ciel et de la terre, tout-puissant, éternel, immense, incompréhensible, infini en intelligence, en volonté et en toute perfection. Vu qu'il est une substance spirituelle unique et singulière, absolument simple et immuable, il faut affirmer qu'il est distinct du monde, en réalité et par essence, et qu'il est parfaitement heureux en lui-même et par lui-même, et qu'il est ineffablement élevé au-dessus de tout ce qui est et peut se concevoir en dehors de lui. Vous voyez, ce panthéisme qu'on pourrait imaginer, auquel on pourrait penser, doit être exclu. Une union hypostatique qui serait l'unité du Fils de Dieu avec le monde entier.
Et comment on peut comprendre qu'il est aussi la tête du corps?
Voilà, c'est une bonne question. Est-ce que c'est une union hypostatique qui se réalise là? Ou bien c'est une union par la grâce? Par la grâce capitale, la grâce qu'on appellera justement la grâce capitale, parce que la grâce du salut, que le Christ nous a mérité par la mort et la résurrection, cette grâce du salut dérive sur tous les hommes dont il fait son corps, dont il est la tête. Mais c'est la grâce du salut, ce n'est pas l'existence que nous distinguerons toujours. L'existence et la grâce du salut. Oui ? Ça va ?
Oui, ça va.
Je répète, si vous voulez, à supposer qu'on admette un Dieu qui soit l'âme du corps, du monde, l'âme du monde, imaginez la tentation, c'est fantastique. Quand des gens, d'ailleurs, nous allons le voir à propos du traité de la création, mon maître, le père Pessac, disait que la pente universelle qu'on trouve partout, au Japon, partout, dans toutes les religions orientales également, la pente normale de l'intelligence, c'est le panthéisme. On imagine un être qui est là comme chicnode du monde, qui anime le monde, qui fait exister le monde, qui se fait exister le monde, qui fait se transformer le monde tel que nous le voyons, toutes les transformations que nous observons. Ce n'est pas possible que ce ne soit pas animé par quelqu'un, l'intelligence qui préside à tout ça, etc. Et on imagine cette union comme à peu près on imagine l'union de l'âme et du corps humain. Et c'est très facile, c'est la pente normale de l'intelligence humaine. Parce qu'on n'a pas cette distinction. Cette distinction que nous donne le dogme de la création, à propos de la simplicité divine, qui fait que Dieu ne se confond pas avec le monde, qui vient évidemment de la révélation vétérotestamentaire. Cette distinction, c'est le cran d'arrêt au panthéisme. C'est aussi le cran d'arrêt qui nous permet de considérer l'incarnation de Dieu. Le Fils de Dieu s'est fait homme, une individualité, un seul corps, une seule âme, cet homme, et non pas tous les hommes, et non pas l'univers. Quand nous parlons de l'union hypostatique, nous allons voir qu'est-ce que c'est. Mais déjà, vous pressentez que si on écarte le panthéisme, ici, dès maintenant, c'est parce que ça va nous servir dans le dogme de la création, dans le dogme de l'union hypostatique, dans le dogme de l'Eucharistie. Que vous mangez Dieu dans l'Eucharistie. Dieu est uni à ce morceau de pain. Qu'est-ce que c'est? Comment? Est-ce que Dieu est uni à ce morceau de pain comme il est uni à cette table qu'il fait exister? Et quand Dieu s'unit à la nature humaine du Christ, est-ce qu'il cesse d'être le Dieu infini, immense, incompréhensible, tout-puissant, créateur? Non. Il ne cesse pas d'être le Dieu unique, une seule substance avec le Père, infiniment simple. Donc, l'union hypostatique n'est pas une composition. La nature humaine ne contracte pas l'existence de Dieu. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez? La simplicité divine est sauve. Et là où vous avez des théologies de l'incarnation qui vont dans un sens de panthéisme, dans un sens où l'incarnation serait une espèce de réduction de la divinité, au point que, mon Dieu, on ne considère même plus la divinité du Christ, on n'en parle plus, c'est beaucoup plus simple. C'est ennuyeux, vous savez, le problème de l'incarnation. C'est difficile, toute cette gymnastique. Alors c'est beaucoup plus simple de laisser tomber Dieu, Dieu dans le Christ. Tout est Dieu, ça c'est beaucoup plus simple aussi. Hein? Mais non, l'incarnation, la nature humaine du Christ, ne contracte pas l'existence divine. Quand Jésus dit « Je suis », il dit vraiment le même « Je suis » que Dieu à Moïse. Ce n'est pas un autre, etc. Bon, on commence à voir se déployer le mystère. Et donc, si l'on affirmait que Dieu soit l'âme du monde, eh bien, de toute nécessité, il faudrait convenir que ce Dieu est composé. Que ce Dieu peut être autre qu'il n'est, puisque l'univers, lui, est en perpétuelle transformation. Il est en perpétuelle transformation de devenir autre que ce qu'il est. Comme chacun d'entre nous, d'ailleurs. Si donc ce monde était Dieu, on devrait consentir à reconnaître que Dieu se transforme, que Dieu change, que Dieu devient autre qu'il n'est. Or, à mon avis, il est absolument impossible d'admettre cette composition en Dieu, puisqu'il est l'acte même d'exister. Il reste que, et c'est la conclusion à retenir, Dieu n'est donc pas composé, puisqu'il n'est pas le monde. Dieu est infiniment simple, simplex omnino, absolument simple. C'est la formulation du Concile du Vatican I, que je viens de vous lire, absolument simple et immuable, Danziger 3001. Et qui reprend donc le quatrième concile de Latran, l'enchaînement des conciles. Est-ce que ça va jusqu'ici? On va faire une deuxième pause maintenant.